Exawave.
L'histoire de l'art, l'anthropologie, les temps et les textes de la philosophie, mon âme et mon hyper académique.
Hexagramme.
Des chercheurs en art, médias, science, design et technologie, ça doit
Nunc viva renter vietenim, fuchest, viva musartellus, fellentesque habitant morbitris malesua da fames.
Bonsoir, bon après-midi à tous. Vous êtes à l'écoute d'ExaWave, l'émission produite par l'équipe du réseau Hexagramme. Je suis Cynthia Nourry, coordonnatrice à la recherche du réseau, et j'ai en ma compagnie aujourd'hui Louise Poisson. Bonjour.
Bonjour, Cynthia.
Donc, Louise Poisson est une figure assez connue, on s'entend, en recherche-création. Donc, je vais quand même la représenter brièvement, mais je crois que nos auditeurs la connaissent assez bien. Donc, Louise, vous cumulez une trentaine d'années de carrière dans le milieu universitaire. Vous avez été professeure, vous avez été membre d'Hexagramme depuis les tout débuts, doyenne de la Faculté des arts de l'UQAM jusqu'à tout récemment. Et depuis le 1er octobre, vous êtes directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec en société et culture, le FRQSC. La diversité des sujets que vous avez couverts au fil des années est quand même assez impressionnante. On parle, entre autres, des arts médiatiques, du numérique. Vous avez, entre autres, étudié le bio-art. Comment est-ce que ces sujets-là sont arrivés dans votre carrière de chercheur?
Peut-être dire d'abord que les recherches sur les arts numériques ou les arts médiatiques étaient émergentes au milieu des années 80 et que je sentais que c'était un lieu qui permettait la convergence de beaucoup de choses qui m'intéressaient. Les technologies m'ont toujours intéressée. Évidemment, la pratique artistique, les arts et l'esthétique m'intéressaient aussi. Et là, tout à coup, c'est comme si il y avait cette rencontre et avec la dimension médiatique, parce qu'au début, les arts médiatiques, c'était essentiellement de la vidéo, de l'art par ordinateur. Alors, c'était... il y avait cette dimension-là aussi médiatique qui s'ajoutait. Alors, en plus, c'était... le Québec commençait à produire des artistes, je peux dire le mot « produire », en tout cas, avait des artistes qui commençaient à émerger eux-mêmes, à se faire connaître. Ici, à l'UQAM, il y avait des cours qu'ils donnaient en art par ordinateur. En fait, il y avait deux profs qui s'y intéressaient sur des machines qui sont maintenant complètement des Amiga 5000, qui étaient une affaire qui était merveilleuse à l'époque, puis maintenant... évidemment, mais la vidéo aussi était très importante. Enfin, ça m'a intéressée, et d'autant que je sentais qu'il y avait là une promesse de déploiement dans beaucoup de formes d'art qui allaient suivre. Et effectivement, les arts médiatiques se sont très vite déclinés en une multitude de formes d'art. En fait, le tronc commun comportait cinq disciplines au départ. Là. Ça va vous donner une idée. Il y avait l'art par ordinateur, la vidéo, le copy-art. Ça, c'était la copigraphie, l'art fait avec des machines Xerox, la musique électroacoustique et le multimédia. Là, on couvrait à peu près tout. Puis, disons, 20 ans plus tard, c'est devenu plus de 250 formes d'art. Rien que le bio-art auquel je me suis intéressée, lui-même se décline en plus de 40 formes d'art biotechnologique, si on peut dire, depuis la robot-sculpture jusqu'à des installations qui comportent l'intelligence artificielle, avec de la culture de tissu, avec... tout le côté de la performance aussi et du bio-art. Enfin, on comprend comment c'était effectivement l'aube d'un avenir extraordinaire.
Parce que justement, jusqu'à présent dans votre carrière, vous avez quand même assuré la direction de presque une douzaine d'ouvrages. Parmi les plus récents, on en a un sur les avatars, les personnages virtuels en 2013, le bio-art en 2012. Vous aviez également abordé l'art et les biotechnologies en 2005. Vers la fin des années 90, vous aviez entrepris de créer un dictionnaire des arts médiatiques. d'où ça vous vient, cette espèce, cet intérêt-là, en fait, pour le catalogage, presque, je dirais?
Alors, bien, disons, d'abord, le premier projet, c'était le projet de dictionnaire en 1989 et qui a été tout de suite bien financé par le CRSH. Et ça m'a permis de former une équipe formidable, d'ailleurs, d'une quinzaine de chercheurs, plusieurs de l'UQAM, de l'Université de Montréal, de McGill, et des collaborateurs un peu partout à travers le monde. La motivation de départ consistait à essayer de documenter en français les arts médiatiques. Il existait déjà un peu de documentation, mais exclusivement en anglais. Et quand je suis allée voir Roger Malina, qui dirige encore la revue Leonardo, je suis allée le voir en Californie et je lui ai dit « J'aimerais faire un dictionnaire en français des arts médiatiques. » S'il met à rire, il m'a dit « On est du même âge. » Puis là, il a ouvert son sac, puis il a sorti 3 dictionnaires anglais autour du numérique, de l'ordinateur, dans l'espoir qu'il y aurait même un nouveau dictionnaire en anglais sur les arts médiatiques. Alors, disons que c'était un projet qui était... qui est tombé pile au bon moment, disons, dans le bon milieu. Et bon, évidemment, j'étais très soutenue. J'ai eu un poste à l'UQAM, grosso modo, pour ça. Je veux dire, pour développer ce champ-là. Et... Alors, la raison, peut-être, pour laquelle le catalogage et même la classification, puis même trouver les bons mots, etc., était si importante, c'est aussi parce que... c'était des formes d'art émergentes, puis alors on ne savait pas comment les définir. Dans le milieu de l'histoire de l'art, qui n'était pas mon milieu à moi, parce que je viens de la philosophie, mais dans mon milieu non plus, on n'avait pas un appareil théorique, esthétique, pour aborder ces nouvelles formes d'art. Et maintenant, on est très loin de ça, mais le seul fait que ce soit de l'électrofacture, que ce soit fait par des machines, pour certains, ça disqualifiait ces productions-là du titre d'œuvre d'art. C'est-à-dire que c'est des machines qui faisaient, ou c'est des programmes, ou c'est algorithmique, où est l'humain, où est la sensibilité, etc. Alors, il y avait, comment dire, toute une série de, je dirais, d'idées reçues. Et en plus, ajoutons que les œuvres qui étaient produites n'étaient pas des œuvres qui pouvaient concurrencer avec la production d'un artiste patenté. C'est clair qu'un artiste pouvait faire des choses infiniment plus poétiques, plus évocatrices, plus riches, plus profondes que ce qu'on pouvait faire avec une imprimante par numéro, alphanumérique, qui faisait la photo de Brigitte Bardot avec des zéros puis des X. Bon, inutile de dire que... c'était pas riche à côté de la peinture ou de la sculpture. Alors, il y avait, je dirais, tout un travail d'exploration, parce que c'était vraiment de l'exploration qu'on faisait, d'exploration pour essayer de trouver les dimensions purement esthétiques, importantes, déterminantes même de ces formes d'art-là. Puis, par la suite, un travail, je dirais, d'acculturation pour essayer de mieux les faire comprendre, les faire connaître, les faire valoir les dimensions originales, nouvelles de ces formes d'art-là. Et ces dimensions-là sont innombrables. Maintenant, c'est banal de parler d'art processuel, de parler d'hybridation, de parler d'œuvres, enfin, tout ce qui qualifie les arts médiatiques. Je veux dire, c'est un univers. Mais à l'époque, c'était... c'était des nouvelles notions, c'était un nouvel horizon, disons, personne avait travaillé, avait étudié dans ce domaine-là, il y avait très peu de documentation. Bon, en français, il n'y en avait réellement pas du tout. Alors, d'où l'intérêt d'essayer de développer des outils, de développer des concepts, des notions. Puis là, l'autre aspect essentiel, du grand plaisir que j'ai eu à travailler là-dedans, c'est le plaisir de travailler en équipe. Parce que les arts médiatiques sont des arts qui sont très propices pour un travail en équipe. Ça prend souvent une équipe interdisciplinaire pour développer un projet. Puis là, c'est clair que pour développer quelque chose de l'ordre d'un dictionnaire encyclopédique, ça prenait une collaboration très étroite de gens. Mais l'équipe était tellement extraordinairement dynamique, d'ailleurs. C'est dommage que je sois la seule à en parler, parce que c'était le moment du développement d'un immense réseau international, puisque dans le dictionnaire, on a recensé plus de 2000 artistes, rien maintenant, mais en 1990, 91, 92, c'était beaucoup 2000 artistes dans notre domaine, de tous les pays, de tous les continents, qui nous ont envoyé leurs œuvres, qu'on a indexées sur le dictionnaire dans sa version électronique. Alors, c'était très exaltant de travailler dans ce projet-là, qui était au début du déploiement, du développement d'un grand réseau.
Est-ce que, justement, vous parlez de démultiplication, est-ce que ce serait encore possible d'essayer de cataloguer les arts médiatiques aujourd'hui, en 2015?
Non, c'est complètement impossible. C'est tout aussi impossible que d'essayer de faire une espèce de cartographie précise de toutes les formes d'art avec des médiums plus classiques. C'est impossible, mais on peut quand même se donner une espèce de mapping général où on voit des grands champs. Puis il y a des champs encore en émergence, notamment du côté des arts de la scène. Évidemment, il y a des précurseurs, Piscator, Appia, etc., qui ont fait des grandes réalisations à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, avec des dispositifs incroyables. Piscator qui faisait des fonds de scène avec des projections du cuirassé Potemkin, par exemple. Alors, ça a existé, mais c'était... les arts de la scène ont toujours été assez technologiques avec les outils de l'époque pour faire du bruit, les bruitards, etc. Mais avec les nouveaux dispositifs médiatiques, même la vidéo, ça fait pas si longtemps et c'est pas très répandu et c'est toujours pas très bien reçu. Alors, souvent, les gens ont l'impression que c'est un beau violon sans mélodie, une belle bébelle avec pas de contenu. C'est encore souvent les critiques que même des géants comme Robert Lepage peuvent recevoir. Alors, c'est pas tout à fait passé dans la culture, si c'est pas tout à fait accepté, on faut aussi dire, donc... en corollaire, c'est que il n'y a pas un grand incitatif pour les metteurs en scène ou même les dramaturges de travailler avec ces outils-là et donc de les explorer, de les mettre en scène, d'en exploiter d'autres dimensions. Alors, c'est pas... Bon, il y a des choses magiques qui se font dans le domaine des arts de la scène, mais je pense qu'il y a encore un grand territoire là à explorer et à développer.
C'est comme vous mentionniez tout à l'heure, les arts médiatiques, aujourd'hui, on a l'impression que ça va de soi, ça n'a pas toujours été le cas. Vous me disiez tantôt avoir écrit une bonne partie de votre thèse sur papier. Peut-être que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus. Qu'est-ce qui a fait, justement, que vous avez, suite à ces expériences-là, cliqué sur les arts médiatiques parce que c'était pas donné d'avance?
En fait, j'ai pas écrit une bonne partie de ma thèse. J'ai écrit toute ma thèse en format papier avec un stylo. Que quelqu'un dactylographiait par la suite et mon directeur qui était à Paris, je communiquais avec lui en lui envoyant des chapitres de thèse par la poste. Il écrivait sur ma copie des remarques, des réflexions, des corrections que je faisais, etc. C'était en 82 quand j'ai fini. Alors, c'était avant l'ordinateur portable. Évidemment avant Internet. Alors, mais je pense que j'étais absolument privilégiée de travailler, je le trouve encore aujourd'hui, d'être aujourd'hui là où je suis avec justement ce développement des technologies. Évidemment, chaque outil comporte sa propre finitude et ses propres, son volet négatif. On peut se servir d'un marteau pour tuer. Alors, celui qui a inventé le marteau a inventé une arme meurtrière. Et les technologies ont évidemment des usages qui dépassent souvent l'objectif qui était poursuivi dans leur conception. Cela dit, je trouve que, parce que je ne vois pas uniquement le bon côté des technologies, mais je pense que les technologies ont été... c'est ce qui se rapproche le plus peut-être du mode de pensée. L'écriture, c'était déjà... c'est une technologie qui a permis de sortir la mémoire de la tête puis de la déposer sur du papier, disons. Mm. Et c'est bon, évidemment, et comme l'écriture a donné lieu par la suite à l'imprimerie, qui a créé l'analphabétisme, parce qu'à partir du moment où on a l'imprimerie et accès au savoir imprimé qui peut être facilement diffusé, on vient de créer deux catégories, ceux qui savent lire et qui ont accès aux livres et ceux qui n'ont pas accès aux livres, c'est encore vrai aujourd'hui. Bon, avec les technologies numériques et avec les arts médiatiques, je dirais que c'est la même chose. C'est-à-dire que ça se rapproche encore plus des outils avec, comment dire, des modes de pensée, parce que notre pensée est pas simplement, est multiple, elle est sérielle, elle est séquentielle, elle est à plusieurs niveaux, plusieurs étages, etc. Elle est en réseau. Et je dirais que c'est ce que les technologies développent de plus en plus. Pas nécessairement en calquant les facultés ou les dimensions cognitives, mais aussi en essayant de d'y ressembler. Mais je dirais, c'est une mémoire incommensurable qui n'a rien à voir avec la mienne. C'est des procédés de classification, d'indexation, d'archivage, etc. Je veux dire, et malgré tout, la mémoire, c'est la base de la pensée. Penser, c'est associer deux idées, deux images. Mais il faut avoir une banque d'images pour pouvoir faire des associations nouvelles, intéressantes, etc. Alors, déjà, rien qu'à ce niveau-là, le médiatique et son outil pour moi qui m'émerveille continuellement. Bon, évidemment, et comme je viens de le dire, tout ce qui est à la fois merveilleux, bien, ça peut aussi servir d'autres finalités, disons.
Mais on sent en tout cas vraiment la passion, puis ça explique entre autres pourquoi c'est un projet qui vous a suivi aussi longtemps, puis qui a donné lieu à autant de créations. Le temps file, alors on va se projeter un peu plus près de vos activités en ce moment. Depuis le 1er octobre, vous avez dû en partie délaisser le chapeau de chercheur pour devenir directrice scientifique du FRQSC. Comment ça se passe pour vous, cette transition-là?
Bien, il y avait une dimension un peu cruelle parce que j'ai dû renoncer à deux engagements puis deux lieux de mobilisation pour moi. J'étais chercheure FRQSC avec un gros projet avec une collègue, Josette Ferral, sur les arts de performance, donc le théâtre, la danse, les arts du cirque, la musique. Et puis, j'ai dû aussi me retirer comme chercheur, disons, officiel de Hexagram, puisque Hexagram est aussi financé par le fonds. Alors, ça, c'était un sacrifice. Bon, mais ça ne m'empêche pas. Et le scientifique en chef, Rémi Quirion, m'a encouragé à poursuivre des activités de recherche, puisque, en plus de ça, c'est un milieu où le réseau est vraiment international. Donc, ça permet aussi de faire des liens entre mes responsabilités maintenant au fond et divers milieux de recherche à travers le monde. Je dirais que c'est des nouveaux défis. Puis en plus de ça, j'ai le grand plaisir de réaliser qu'il y a beaucoup de dimensions qui rejoignent des intérêts que j'avais. Cette semaine, par exemple, j'étais participée à un séminaire sur le libre accès. Bon, le libre accès, c'est certainement un des sujets importants pour les arts médiatiques, puisque qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça a comme implication sur les productions artistiques, sur l'authorship ou le contributorship? Qu'est-ce que ça a comme incidence sur les données personnelles, etc.? Bon, le médiatique est nécessairement interpellé par ça. La semaine prochaine, je pars à un autre gros colloque en Allemagne sur les big data, sur les grosses bases de données, quelle est leur importance, quelles sont les modalités d'accès à ces grosses bases de données pour les sciences humaines, en fait, puisque je représente l'ensemble des sciences humaines dans ce colloque-là. Mais c'est clair que ça a un grand intérêt aussi pour les arts médiatiques, comme on le sait. Puis on était récemment au congrès là, Recreate, où justement, c'est en histoire de l'art, et effectivement, il y a des grosses bases de données que beaucoup de chercheurs ont envie d'explorer, de forer, d'aller investir pour y découvrir des choses très anciennes parfois, ou des œuvres de pionniers, ou enfin toute une série de données qui ont une pertinence, qui peuvent avoir une résonance dans la recherche.
Puis vous avez mentionné aussi dans votre premier message, en fait, à titre de directrice scientifique, que parmi les objectifs, les dossiers sur lesquels vous alliez travailler, il y avait entre autres la transdisciplinarité, puis le fait de poursuivre la réflexion sur la recherche-création et son intégration dans les fonds. Qu'est-ce qui vous attend de ce côté-là?
Disons que le transsectoriel et le transdisciplinaire... Puis au-delà même du transdisciplinaire, donc le transsectoriel, c'est pour moi quelque chose d'essentiel, mais je veux dire, ça l'a toujours été. Je veux dire, d'ailleurs, les arts médiatiques sont nécessairement et par définition pas simplement transdisciplinaires, sont transsectoriels parce que quand on travaille avec un ingénieur ou un informaticien, puis qu'on vient du milieu des arts, c'est deux secteurs, disons, du savoir ou de la recherche qui se rejoignent, là, pour moi, s'il y a un grand avenir là, je ne vais pas dire que la recherche disciplinaire est morte. Pas du tout, certainement pas. D'ailleurs, c'est pas une chose souhaitable, d'une part. Puis par ailleurs, je dirais que c'est un constat de fait, ça existe encore. Mais la recherche transdisciplinaire, ce qu'elle a de particulier, c'est que ce n'est pas simplement plusieurs disciplines qui se mettent ensemble pour regarder un même phénomène, comme par exemple, pour analyser un tableau de Giotto, on peut se mettre un historien d'art, un historien, un spécialiste des matériaux, des pigments, etc., un spécialiste de l'histoire des religions, pour essayer de mieux interpréter l'œuvre. Ça, c'est vraiment de la pluridisciplinarité. Avec la transdisciplinarité, c'est qu'on travaille sur un objet, mais l'objet, il ne peut pas être appréhendé ou défini sans, disons, le croisement de plusieurs disciplines. Parce que ce n'est pas simplement un objet qu'on regarde, c'est un problème. Mm-hmm. Et je dirais que, pour citer une Américaine, Sheila Derry, les problèmes dans le monde actuellement, ils ne sont pas disciplinaires. Les problèmes, ils sont complexes, très complexes. Et pour essayer de lever des niveaux ou d'appréhender des niveaux ou de cadrer, ça nous prend plusieurs lunettes de cadrage, plusieurs filtres, plusieurs outils pour essayer d'en saisir la complexité, l'ampleur, la profondeur. Et là, c'est vrai que ça prend un appareil, je dirais, pluridisciplinaire qui est un croisement pluridisciplinaire. Il faut se mettre ensemble pour... Bon, les arts médiatiques sont d'ailleurs un extraordinaire exemple de ça. Parce que pour réaliser un projet, ça ne prend pas juste un bon informaticien qui va venir exécuter ce que l'artiste lui demande. Ça prend un bon programmeur qui est capable d'inventer une nouvelle façon de faire pour aborder l'interactivité ou aborder... et ajouter des dimensions à l'intuition qu'avait l'artiste. Et c'est vraiment un croisement des deux expertises qui va créer un projet intéressant.
Puis avez-vous l'impression que les fonds, justement, suivent bien cette tendance-là?
Bien, les fonds prennent cette direction-là. C'est nouveau, c'est dans le plan stratégique 14-17. Et ça nécessite deux choses. D'abord, un changement de culture, qui n'est pas simple parce que la recherche n'est pas décrochée du travail qui est fait dans les universités, les départements. Et les départements, dans l'ensemble des universités, sont des départements où les embauches se font d'une façon disciplinaire. Alors, les rencontres interdisciplinaires sont souvent favorisées, mais ne sont pas favorisées par le curriculum universitaire. Par ailleurs, ça prend des fonds. Et c'est vrai que, par exemple, au Fonds Société et Culture, où je suis, je ne pourrais pas prendre beaucoup de fonds de société et culture pour les mettre sur des projets transdisciplinaires si mes collègues des deux autres fonds, c'est-à-dire du fonds santé et du fonds nature et technologie, mettent pas ensemble, constituent pas un pot commun avec moi. Alors, faut donc, il y a aussi là un travail à faire pour trouver des financements qui vont rendre possible des projets transdisciplinaires. Mais c'est clair que l'avenir de la recherche va être en grande partie dirigé par de la recherche autour de problématiques qui sont que plusieurs disciplines peuvent s'approprier. Sur la recherche-création?
Oui, tout à fait, c'est ce que j'allais vous demander.
Alors, au début des années 2000, il y a eu un programme créé au fond, un programme de recherche-création, et un nouvel axe même. Et Il est en révision. Alors, juste comme j'arrivais, on commence la révision du programme. C'est un programme très intéressant. C'est un programme... la révision qu'on a faite est importante, je pense, sur le plan sur lequel on travaille. Est importante parce qu'elle permet parfois de nuancer certaines notions. Par exemple, à qui s'adresse le programme? Alors, je pense qu'on se dirige, c'est pas fini, mais je pense qu'on se dirige vers une ouverture et pas simplement une limitation à ceux qui pratiquent dans des disciplines artistiques, mais une ouverture pour tous ceux qui ont une pratique reconnue sur une base professionnelle, là, disons, dans le milieu des arts. Alors, on essaye de s'ouvrir à des dimensions inter- ou transdisciplinaires. On essaye aussi peut-être de revoir un peu les notions de théorie pratique, peut-être pour les articuler autour de problématiques actuelles. Enfin, c'est un travail qu'on fait avec un comité qui travaille, puis un comité qui a consulté un comité pilote et de pilotage qui va consulter un autre comité d'experts, alors où il y a des représentants artistes de la plupart des universités, où il y a des programmes d'art et de plusieurs disciplines. Alors, c'est un gros travail de concertation et parce que c'est important que les chercheurs en art se retrouvent dans ce programme. Retrouvent ce qu'il y a de plus intéressant ou de plus pertinent dans ce programme-là.
Puis aussi, j'ai cru comprendre également que la dimension aussi d'évaluation et éthique associée à la recherche-création était aussi à l'étude en ce moment.
Oui. Oui, ça, c'est un gros dossier parce que on va justement travailler sur la notion d'éthique reliée aux arts. Et parce que, que ce soit pour les étudiants, les bourses qu'on donne aux projets des étudiants de doctorat ou de maîtrise et qui ont des sujets humains impliqués dans leurs travaux, leurs recherches, que ce soit pour nos programmes en recherche-création, mais que ce soit pour n'importe quel programme du fond, on travaille en ce moment à développer une politique éthique. C'est très complexe parce que les besoins ne sont pas les mêmes selon les disciplines. Alors, on pourrait s'imaginer que, ça devrait être assez universel, qu'on ne peut pas faire telle chose avec... Mais non, en fait, il y a des spécificités selon les domaines. Alors, il faut être à la fois attentif pour justement arriver à établir... des modèles ou une espèce de guideline, là, de guide des bonnes pratiques et des pratiques éthiques. Mais en même temps, il ne faut pas que ce soit trop procédurier et contraignant au point que ça inhibe ou que ça empêche le développement de certaines recherches. Pour donner un exemple très banal, quelqu'un qui voudrait faire un projet en robotique et où l'application avec les robots va être dans 2 ans, bien, on voit pas. La personne ne veut pas être obligée de passer par le comité d'éthique avec application des humains dès l'année 1, parce que à l'année 1, ça peut retarder son projet de 3 mois, toute la procédure autour du comité éthique, puis ils ne savent même pas encore s'ils vont se rendre jusqu'à l'application avec des humains. Alors, c'est pour donner... c'est pas un gros problème éthique, mais on comprend que ça peut être un gros facteur de ralentissement puis une contrainte très lourde pour les chercheurs.
Puis, quand est-ce à peu près est-ce qu'on va pouvoir s'attendre à voir ces premiers changements-là?
La révision du programme Recherche-Création est prévue pour le printemps puis pour l'ouverture du concours de l'automne prochain. La politique sur l'éthique, on est en consultation. Je dirais que ça va être une politique qui va s'intégrer au fond. Il y a déjà une pratique... c'est pas une politique, mais il y a déjà des exigences au niveau éthique, là, de la recherche qui sont gérées par les universités. Mais oui, je dirais que dans les prochains mois aussi.
Donc, beaucoup, beaucoup de pain sur la planche.
Oui.
En terminant, qu'est-ce qu'on surveille d'autre pour vous? Quels sont vos projets à venir?
Là, j'ai encore un grand projet avec une équipe de collaborateurs ou de partenaires à Toronto et au Frénois avec Pierre Tremblay à Ryerson et Alain Fleischer au Frénois. Et on a une biennale ensemble depuis 2006. Et cette année, plutôt en 2016, en février 2016, on aura la troisième édition d'un colloque qu'on co-organise sur la lumière. La deuxième édition était à Montréal en mars 2013. C'était sur Lumière de la ville, autour de des projets d'architecture, de médias façades. Et en 2011, ça avait été au Frénois sur les lumières, le cinéma, les installations. Alors, l'édition de février prochain à Toronto va porter sur les dimensions peut-être plus philosophiques du rôle de la lumière dans les installations artistiques, médiatiques, évidemment.
Puis on a très hâte de voir ça. Louise Poisson, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Ça a passé trop vite.
Oui, merci. Donc, c'est moi qui vous remercie.
Merci. À la prochaine. Et merci à vous tous d'avoir été à l'écoute avec nous. À bientôt.